Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
À l'écoute de Radio Capi, nous vous en remercions. Merci d'avoir choisi la fréquence de la paix et surtout bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile qui parlera santé aujourd'hui, particulièrement des cancers, autour de la fondation Bomoko pour laquelle nous recevons aujourd'hui sa présidente, Madame Amissi Charoufa. Bonjour.
Bonjour Lana.
Alors vous n'êtes pas seulement la présidente de la fondation Bomoko, vous êtes aussi la directrice de Mass Consulting.
Exactement.
Qui est une entreprise spécialisée dans la communication et l'événementiel.
Mm-hmm.
Alors, vous avez commencé à travailler très, très jeune. C'est à l'âge de 17 ans.
Exactement.
Je ne donne pas votre âge actuel. Hein. Mais vous avez moins de 30 ans, mais vous faites tellement de choses que ça nous a intéressé de vous recevoir aujourd'hui. Ah, donc, je disais, vous travaillez depuis l'âge de 17 ans.
Mm-hmm.
Vous étiez attachée à la direction juridique dans la section électorale de l'ambassade de Belgique.
Exactement.
Un travail qui n'a duré que 3 mois.
Mm-hmm.
Et après, vous êtes allée travailler dans une entreprise pétrolière. Pardon, pendant 2 ans, mais tout ça en combinant avec les études
secondaires.
Donc, j'ai envie de demander, les ambitions ont commencé très très jeune?
Oui, très très jeune. Au fait, dès que j'ai terminé l'école secondaire, je l'ai terminé assez tôt, donc à 16 ans et demi, 17 ans. C'est là où j'ai décroché mon premier boulot, mon premier job à l'ambassade. Et oui, j'ai pris goût au travail parce que j'étais quand même bien encadrée. Et voilà, j'aimais vraiment ce que je faisais et j'ai pu trouver des mentors professionnels qui m'ont orientée, qui jusqu'aujourd'hui d'ailleurs continuent à le faire. Et depuis, je me suis lancée dans le milieu professionnel.
Alors, quand je suis un peu votre parcours entre ce que vous faites aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont en parallèle, mais
mm-hmm.
pour au finish, tomber sur un point commun qui est votre personne. Alors, vous avez étudié ici à l'Université catholique du Congo, vous avez fait l'économie de développement. Actuellement, vous êtes en train de faire 2 masters,
mm-hmm.
Notamment en stratégie de communication et communication politique à l'école de communication européenne. J'ai envie de demander dans quel objectif?
Alors, là... Mon master, enfin mes 2 masters m'aideraient vraiment à mieux travailler pour ma structure de lutte contre le cancer. J'ai choisi le domaine de communication parce que aujourd'hui, c'est tout ce que nous faisons. La communication est vraiment au centre de toutes les activités. Et pour pouvoir pénétrer ce monde politique, il faut savoir communiquer. La communication politique vise essentiellement à donner les outils nécessaires pour pouvoir effectuer des bons plaidoyers, effectuer des bons lobbying et faire parler une cause aussi grande que le cancer. Mais aussi, je suis certaine que cela m'aiderait à perfectionner ce que je fais déjà avec certaines entreprises et pourquoi pas un jour occuper des grands postes.
Ah oui,
également.
C'est là que j'allais chuter parce que vous m'aviez dit quand on préparait cette émission que vous aimeriez un jour diriger l'OMS, l'Organisation
Exactement.
Mondiale de la Santé, comprendre par où passent les financements.
Exactement.
Oui.
Exactement. Parce mm-hmm. que l'OMS, pour moi, je trouve que c'est une structure assez grande qui touche presque toutes les maladies, on va dire toutes les maladies. Mais j'aimerais bien comprendre ce qui fait que l'OMS s'intéresse à un pays
et pas,
et pas un autre, ou à une maladie et pas une autre, par exemple. Et pourquoi pas faire de l'OMS vraiment un partenaire important dans la prise en charge des cas de cancer en RDC.
Alors, après avoir travaillé pour une entreprise pétrolière de la place pendant 2 ans, vous avez été travailler dans la section assistant manager du développement du département des réservations dans un établissement hôtelier.
Mm-hmm.
Vous voyez des choses, vous êtes formé, mais vous vous dites que je me donne un peu trop pour le travail et ça crée en vous des frustrations.
Exactement.
Et vous décidez d'abandonner ce travail-là.
Oui, parce que au fait, c'est aussi, je vais dire, l'un des désavantages au fait de travailler dans notre pays en étant jeune, c'est que on fait face à plusieurs inégalités. Et par exemple, pour mon cas, comme j'étais déjà en train de cogiter par rapport à l'organisation d'une structure, la Fondation Bomoko, je ne pouvais plus combiner avec ce travail qui me prenait déjà beaucoup trop de temps.
Vous m'avez dit de 6h à 22h.
Oui, pratiquement, c'est un hôtel et travailler dans un hôtel, ça prend beaucoup de temps. Mais aussi plusieurs inégalités que j'ai eu à subir sur place en termes de salaire, en termes de reconnaissance de travail. Je suis une femme, je ne peux pas accéder à certains postes qui sont réservés qu'aux personnes étrangères. Et tout ça, après, ça devient assez lourd et c'est une question de priorité. Et moi, en fin 2016, ma priorité était vraiment de m'épanouir professionnellement et ça ne cadrait plus.
Est-ce que c'était un risque à prendre?
Un grand risque.
Parce que les gens peuvent vous dire, oui, mais Mélissa, vous avez un travail, il y a beaucoup de chômeurs sur le marché de l'emploi, vous avez ce travail, même s'il y a des frustrations, mais il faut quand même le garder.
Oui, mais il y a aussi l'aspect développement de soi. Il ne faut pas rester dans un travail juste pour payer les factures en fin de mois. Oui, c'est vrai que c'est impératif, mais je suis jeune, j'ai encore beaucoup plus d'opportunités, surtout que lorsqu'on se donne aux études aussi, les opportunités ne manquent pas. Donc c'est vrai que c'est un risque, parce que j'ai quand même passé 6 bons mois à la maison sans travailler, à me poser beaucoup de questions. Est-ce que je dois rentrer?
Est-ce que j'ai fait le bon choix
ou pas? Mais au final, la voix du cœur, la voix qui nous pousse à être meilleur est toujours la meilleure des solutions ou le meilleur des choix à faire. Donc c'est un risque, oui, mais c'est un risque qui est bien pour moi, relativement bien pour moi, et je ne regrette pas de l'avoir pris.
Alors, vous êtes 6 mois à la maison, vous commencez à cogiter, il y a la Fondation Bomoko, qui va voir le jour peut-être un an après, je crois bien.
Les mois qui suivent.
Mais il y a Mass Consulting que vous créez, c'est pourquoi? C'est quand même pour vous permettre d'arrondir vos fins de mois.
Exactement, oui, parce que je m'étais fait pas mal de contacts, parce que dans le milieu hôtelier, par exemple, on rencontre beaucoup de personnes, de même que dans le milieu pétrolier. Donc, je me suis fait pas mal de contacts et j'ai recommencé à appeler, à passer des coups de fil, savoir s'il y a un certain besoin. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais quand même bonne en termes de communication, que j'aimais bien lire. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup écrire. Donc, j'ai passé certains tests et j'ai commencé à travailler en freelance petit à petit et j'ai commencé à faire partie des organisateurs des grands événements. Et j'ai trouvé ma voie. Comme quoi, le risque, si je ne l'avais pas pris, je n'aurais pas découvert ce côté communicationnel de moi.
Oh oui. Est-ce que c'est, je dirais pas facile, est-ce que c'est évident justement de se faire sa place ou sa petite place dans ce milieu-là quand même où on connaît des grandes agences de communication? Vous parlez du problème de l'âge, vous êtes jeune, comment on fait pour aborder les gens et dire malgré mon jeune âge, j'ai de l'expérience, j'ai de l'expertise en tel ou tel autre domaine?
En fait, un client satisfait forcément parle de vous. Alors je m'étais donné comme ligne de conduite bien travailler, quitte à ne pas travailler pour une très grosse paye, mais construire vraiment sa réputation. Parce que je trouve que c'est ça qui est la base quand on est jeune. C'est pas forcément l'argent, mais d'abord construire un nom. Et qui dit construire un nom, c'est souvent même travailler bénévolement et faire un bon travail. Et c'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, par exemple, je n'accède pas à tous les gros événements ou les gros marchés, mais on se crée une petite place, on essaye avec ce qu'on a, et surtout les recommandations nous servent énormément. Ça, j'en suis vraiment reconnaissante, et faire un travail excellent surtout, et dans les temps.
Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous recevons Mélissa Amissi Charoufa, présidente de la fondation Bomoko. On va parler de cette fondation qui vous tient tellement à cœur. Vous l'avez créée en mai 2017, et vous me dites que ce qui vous a incité ou inspiré à créer ça, ce sont les cas élevés en famille qui vous ont particulièrement touché. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, premièrement, le cancer est une maladie qui me touche vraiment à cœur parce que, oui, il y a eu quelques cas personnels que j'ai eu à connaître qui en sont décédés malheureusement parce que ça a été diagnostiqué tard, malgré les moyens, malgré qu'on pouvait tout donner, malgré qu'on pouvait les envoyer même à l'étranger, mais la maladie était tellement avancée que l'on pouvait rien faire. Et suite à plusieurs voyages en dehors du pays, je me suis rendu compte que la question de la santé publique est beaucoup plus axée sur la prévention, chose qui n'est pas encore le cas chez nous. Et c'était au même moment où je perdais des membres de famille suite à cette maladie. Je me suis dit, je vais faire quelque chose pour mon pays au lieu de beaucoup râler, de beaucoup critiquer négativement. Je vais plutôt copier un peu et essayer d'adapter ces call centers, on va appeler comme ça, à notre réalité congolaise. C'est de là que m'est venue l'idée et j'ai dû même mettre enfin nommer la fondation Bomoko par la suite, parce que justement je voulais unir des personnes qui connaissent au fait le besoin de lutte contre cette maladie autour de cette structure. Nous sommes tous concernés par cette maladie parce que elle ne fait aucune distinction. Donc nous sommes une structure vraiment apolitique. On n'a pas une obédience religieuse particulière et on essaye de faire parler de cette maladie au maximum.
Alors comment se fait concrètement ou sur terrain cette prévention? Vous allez où? Dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises pour en parler? Comment se fait concrètement cette sensibilisation?
Alors on s'était dit, on avait divisé la population en deux catégories. La première, c'est vraiment la population entre guillemets intellectuelle, la population qui a accès à Internet, à Google, la population qui voyage. À cette population-là, on est plus sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment être là, rappeler qu'il y a l'information qui est disponible, que vous pouvez vous renseigner avant qu'il ne soit trop tard, aller en parler à votre médecin. Et ensuite, on a la petite population qui n'a pas accès à tous ces privilèges. Et donc, nous allons sur terrain. On a commencé par les églises, parce que les églises sont les premiers lieux où les personnes vont se réfugier ici, dans notre pays. En tout cas, la majorité des personnes. Donc, on a commencé par les églises, toutes tendances confondues. Et ensuite, dans les écoles, sensibiliser les générations d'après, les générations qui sont encore montantes. Nous allons aussi également dans les entreprises et les médias.
Alors, dans les églises, par exemple, quand vous y allez, parce que nous sommes dans une société avec ses valeurs, ses jugements, si vous voulez, comment est-ce que les gens prennent la chose? Quel est le répondant de ces gens-là?
Il faut être d'abord introduit par le pasteur. Et c'est vrai que les personnes sont assez réticentes parce que c'est pas toutes les églises qui sont, on va dire, rationnelles. Il y a d'autres églises qui ne prêchent que le miracle. Et donc, quand on vient avec un message de parlez-en à votre médecin, faites-vous diagnostiquer, c'est pas un mauvais sort, c'est pas une maladie spirituelle.
Parce qu'on parle beaucoup de sorcellerie.
Beaucoup de sorcellerie. Et tout ça, ce sont des barrières au fait que nous rencontrons. Il y a des personnes qui doutent du message. Elles se disent, mais vous dites que, comment ça se fait que vous pouvez parler de telle maladie dans une église où on nous prêche le miracle? Oui, le miracle, c'est aussi Dieu à travers les médecins. Et lorsqu'on utilise ces formes d'approche, le message est beaucoup plus accepté et les personnes sont plus répondantes. Donc, dans les églises, c'est vrai qu'on a connu certaines résistances, mais c'est aussi dans les églises où on trouve des personnes qui sont prêtes à se faire dépister beaucoup plus facilement. Elles sont quand même assez faciles à convaincre aussi, et malgré le manque de moyens, mais il y a quand même ce bon répondant-là, quand même, je dirais. C'est vrai que c'est pas du tout aisé, parce que lorsqu'on part dans l'église catholique, on ne parle pas de la même façon que si on parlait dans une église protestante. Et donc, on adapte à tout moment nos messages, dépendamment des lieux où on doit aller sensibiliser.
Par rapport à l'interlocuteur, quand vous allez dans les écoles, à qui est-ce que vous adressez votre message?
On adresse les messages aux jeunes filles d'abord pour le cancer du sein, parce qu'il y a un geste, l'autopalpation, qui doit être fait normalement par toute jeune fille qui a déjà eu ses règles. C'est pas un message donné à tout le monde, donc on va dans les écoles pour sensibiliser les jeunes filles, mais aussi les professeurs pour le cancer de la prostate, parce que beaucoup de nos professeurs sont âgés de plus ou moins 50 ans, mais ça les prédispose à un cancer de la prostate. Donc, ils ont droit à l'information. Donc, c'est les jeunes filles et les professeurs que nous visons lorsque nous allons dans les écoles.
Alors, pour parler de la question du dépistage, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont en face de vous? Ce dépistage est-il gratuit ou pas? Comment est-ce que fonctionne, si vous voulez, la Fondation Bomoko par rapport à la question du dépistage?
Ok. Alors là, le dépistage n'est pas gratuit, parce que la notion de gratuité est ce qui tue aussi le développement du Congo. On est tellement habitué à ce que tout soit supporté qu'on banalise même l'acte. Ce que nous, on a fait, c'est que on a des partenariats médicaux, entre autres avec Mamayemo, Biopharm ou le Centre international de diagnostic, avec qui, au fait, on a convenu d'un certain prix. Donc, par exemple, un cas typique, les échographies qui se font à $40 à Biopharm, lorsque vous passez par la Fondation Bomoko, peuvent revenir à $25. Donc, quand le malade ou la personne qui veut se faire dépister passe par nous, il bénéficie automatiquement de ces tarifs-là. Et quand le malade nous demande, mais pourquoi c'est pas gratuit et tout, c'est juste parce qu'on veut faire participer chaque personne dans cette lutte. C'est pas une lutte facile. Et je pense même que d'autres hôpitaux de la place ont arrêté un peu avec ce mode de dépistage gratuit parce que ça ne mène, c'est vrai que les gens se font dépister, mais qu'est-ce qu'on fait des malades?
C'est la question que j'allais poser.
Qu'est-ce qu'on fait des malades? Comment on les oriente? Qui prend en charge les malades? Parce que si vous commencez dans la gratuité, il faut aller jusqu'au bout.
C'est ça, parce que la question de la prévention, elle est importante.
Exactement.
Mais pour les personnes qui sont dépistées ou qui sont malades du cancer, quelle est la suite à donner à leur santé ou à leur vie? Est-ce que dans votre travail, vous rencontrez justement ce genre de difficultés
ou
de problèmes? Les gens viennent pour vous dire
je suis malade.
Oui, mais c'est quoi la suite? Oui.
On les oriente vers nos trois partenaires, mais idéalement, on les oriente à l'Unikin parce que c'est quand même l'hôpital, on va dire. Enfin, l'hôpital général en termes de prise en charge de cancer. Mais il y a aussi des centres comme le centre Nganda qui prend en charge. Monko les prend également en charge. Mais tout ça n'est pas connu du public. Donc, le malade va d'abord sillonner tous les hôpitaux de la ville pour finalement trouver solution dans l'un des hôpitaux de la place, mais après avoir dépensé énormément d'argent. Donc, ce que nous, on a fait, c'est que vraiment, on a récolté toutes ces informations et on a tout canalisé dans un seul point, la fondation, pour que lorsqu'une personne vient, qu'elle retrouve au fait toutes les réponses à ces questions liées au cancer. C'est vrai qu'on n'a pas encore toutes les données, même au niveau national. Même Kinshasa est tellement grand que on est toujours en train de peaufiner notre annuaire au fait en termes de centres de prise en charge des cas de cancer. Le plus grand défi, c'est le coût qui demeure très important parce que même lorsque le malade va à l'hôpital, après il nous revient avec des factures très énormes de chimiothérapie, de chirurgie.
Pensant
que la fondation doit payer. Et c'est vrai que certains moments, quand les cas sont très urgents, on essaye de frapper un peu dans différentes portes, on essaye d'apporter ce que l'on peut, mais ça reste insignifiant. Et c'est, je ne dois pas vous le cacher, c'est ce sentiment après qu'on a est insupportable parce que on a des cas qui meurent par manque de moyens, parce qu'on ne sait pas à qui se tourner, nous aussi en tant que fondation. On a les différents ministères qui sont là, ministère de la Santé, des Affaires Sociales, qui aident tant soit peu, mais le cancer est vraiment une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur et on a peur au fait de ce débordement-là, des cas de malades qu'on ne sache plus gérer.
Alors, on parlait avec vous, Mélissa, hors micro, de la prise en charge médicale même des personnes qui souffrent du cancer, qui sont malades du cancer. C'est bien de faire de la prévention. Je comprends votre souci de faire quelque chose pour votre pays, mais certaines personnes pourraient se demander, oui, mais pourquoi faire de la prévention si après il n'y a pas de suite, si après il n'y a pas de politique de santé définie comme telle pour des personnes qui tombent malades du cancer? Pourquoi faire de la prévention?
Parce qu'il y a certains types de cancers qui peuvent être prévenus quand même. Lorsqu'ils sont diagnostiqués tôt, le traitement est beaucoup plus aisé et on peut même en guérir dans le long terme. Et c'est ça le message même de nos différentes sensibilisations, c'est que s'il y avait aucun espoir lié à cette maladie, ou si, comme pour l'instant, il n'y a pas encore de programme national de lutte contre le cancer, on n'aurait pas pu prendre ce chemin-là. Mais le message d'espoir est vraiment que si vous avez des moyens, maman à partir de 50 ans, papa à partir de 50 ans, effectuez un dépistage tous les 2 ans, si pas tous les 3 ans. Parce que ce simple geste, cette simple discipline peut vous sauver la vie. Vous pouvez voir un médecin, vous développer peut-être une tumeur qui n'est pas encore cancéreuse, mais rien que par l'information que vous avez apprise, vous pouvez vous faire diagnostiquer et traiter et la maladie passe inaperçue. S'il n'y avait pas ce passage d'espoir, je ne pense pas que la fondation aurait existé. Parce que c'est vrai qu'à la longue, on nous pose tellement la question de savoir est-ce que finalement on vendrait pas du rêve? Est-ce que finalement on n'est pas là pour soulever quelque chose? Cette maladie qui tue tellement et puis après on laisse la population vouée à elle-même? Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de briser d'abord le tabou. C'est vrai que le cancer touche beaucoup les parties intimes. Donc, il faut en parler avec son médecin, parler des différents changements que l'on sent pour les femmes, au niveau de sa poitrine, par exemple. Il ne faut pas avoir honte de faire l'autopalpation, d'enseigner ça à sa fille, parce que c'est un geste qui, à la longue, peut la sauver. Et donc, c'est vraiment attaquer les mentalités, donc inculquer un peu cette culture-là, d'entretenir son corps et de faire des dépistages occasionnelle, chaque 2 ans, chaque 3 ans, même lorsqu'on a une bonne santé apparente.
Alors, vous n'avez pas fait des études de médecine, hein, pas
exactement.
Du tout. Mais la question du cancer vous tient énormément à cœur. J'ai envie de demander, quand vous allez faire la sensibilisation, j'imagine que vous n'êtes pas seule. Vous
non.
êtes avec des spécialistes, vous êtes avec des médecins, vous êtes avec des psychologues. Vous travaillez avec qui? Qui constitue justement les équipes de la Fondation Bomoko pour aller sur terrain, sensibiliser, parler aux gens?
Oui, alors essentiellement, d'abord, je tiens à souligner que les médecins ne sont pas forcément des entrepreneurs. Donc, les capacités managériales, au fait, je les ai acquises à l'université et différents stages et parcours professionnels. Je travaille essentiellement avec les médecins, donc les médecins généralistes, parce qu'on a, enfin, certains spécialistes cancérologues sont très occupés, souvent pas au pays, donc on est obligé de travailler avec les médecins généralistes qui, eux, ont suivi des formations par ces spécialistes-là. Par exemple, je vais donner juste le cas, par exemple, du docteur Ali Catherine, qui est au Mama Yemo, qui a donné la formation du cancer du col de l'utérus à nos médecins généralistes de la Fondation Bomoko. On travaille également avec certains médecins qui font le suivi des malades, qui jouent un peu le rôle de psychologue, parce que c'est pas non plus une culture chez nous. Chez nous, le psychologue, vulgairement comme ça, je dirais que c'est notre pasteur. C'est lui qui a les mots qu'il faut, c'est lui qui sait soigner les mots de l'âme. Et donc, du coup, on travaille avec les psychologues, les médecins
oui.
et les infirmiers également, parce que c'est toute la chaîne médicale qui doit être impliqué dans cette lutte. C'est pas une affaire d'une personne, c'est vraiment de l'infirmier jusqu'au chirurgien qui doivent comprendre l'importance de vraiment s'unir contre cette terrible maladie.
C'est la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Mélissa Amissi Charoufa, présidente de la Fondation Bomoko. Nous sommes en train de clôturer le mois d'octobre. Vous parliez de toute la chaîne qui entre dans le travail de cette lutte contre le cancer. Est-ce que les gens se sentent réellement concernés? Autant les gens que vous allez sensibiliser, autant les médecins, les psychologues, les infirmiers, tels que vous les citez. Est-ce que les gens ne sont peut-être pas plus, on va dire, focalisé sur d'autres maladies comme le VIH-Sida, parce que cette question du cancer est, on va dire, un peu récente. Est-ce que les gens se sentent concernés par ce sujet?
De plus en plus. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que même certains malades se sentent perdus. Ils ne comprennent pas, enfin, ils apprennent un diagnostic aussi brutal qu'est l'atteinte du cancer. Ils ne savent pas où se tourner. Ils ne comprennent pas pourquoi d'ailleurs ils ont attraper cette maladie. Ils pensent que c'est plutôt lié au spirituel. Ils se demandent comment je fais pour aller à l'étranger. Ce sont en fait les premiers réflexes qu'un malade a lorsqu'on lui dit qu'il est malade du cancer. Et donc du coup, moi, j'ai fait un constat personnel. Je dirais que les gens ne se sentent pas encore concernés parce qu'ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres, que ça arrive à une certaine classe sociale, les plus riches, que ça arrive, avant c'était la maladie des blancs, comme on le disait.
Oui, c'est vrai.
C'est plus du tout la maladie des blancs, ça atteint les enfants, ça atteint les papas, les jeunes filles. On a eu presque tous les âges qui ont défilé dans la fondation et je peux vous rassurer que c'est vraiment un réel problème de santé publique maintenant. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore tous ces outils de prévention, notamment le registre des cas de cancer qui est vraiment tenu annuellement pour nous donner les chiffres réels de prévalence, de mortalité liés à certains types de cancers. On n'a pas les outils d'évaluation même de nos sensibilisations, donc on ne sait pas forcément suivre l'impact qu'on a sur terrain. Tout ça, nous sommes en train d'y réfléchir, nous sommes en train de travailler dessus, mais ça aurait été bien de pouvoir réellement commencer à évaluer le niveau d'ignorance avant les structures qui s'occupent du cancer et pendant que l'on s'occupe de cette maladie et même après pour pouvoir donner des chiffres corrects et plus que réel, quoi.
Sur l'année de, en tout cas pour la première année,
c'était
la
sur
fondation
fonds
propres. Bomoko, oui, c'était sur fonds propres. Est-ce qu'aujourd'hui vous recevez des dons?
Plus ou moins, oui. On commence maintenant à recevoir des dons, mais des personnes qui vivent à l'étranger, notamment à Londres surtout. Les Congolais qui vivent à Londres, parce que je comprends un peu, hein, à Londres, en France, le cancer est vraiment pris au sérieux et qu'ils savent comment le cancer est une maladie qui déstabilise les familles, qui tue et qui choque pratiquement. Et donc, à travers nos sensibilisations sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui contribuent à distance. Mais c'est vrai que c'est assez timide, mais c'est déjà un bon début. On espère juste que localement, cette même prise de conscience se fera et que nous serons peut-être un jour mandatés, que ce soit même par notre État congolais, de pouvoir mieux œuvrer, je dirais.
J'ai envie de demander, ça c'est un combat que vous menez déjà ou que vous comptez mener? Parce que il est important non seulement de faire de la sensibilisation, d'en parler ici au niveau local, national, mais surtout peut-être à l'étranger où certains organismes sont plus sensibles à la question et
exactement.
Pourraient donner les moyens.
Oui, mais les organismes à l'extérieur, ils ont besoin des structures qui sont mandatées par leur pays pour pouvoir faire du lobbying pour une cause bien précise. Par exemple, pour le cas du cancer, c'est une cause qui implique énormément de fonds et on ne peut pas aller en tant que ONG uniquement nationale qui n'a pas tous les mandats qu'il faut, qui n'a pas toutes les garanties qu'il faut pour faire des levées de fonds importantes. Donc on est assez limité pour l'instant et je pense que dans les mois qui suivent, enfin je suis vraiment optimiste, dans les mois qui suivent ou dans quelques années, nous pourrons enfin bénéficier de tous ces outils-là pour pouvoir aller à l'extérieur. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de montrer des images qui choquent, de rappeler combien notre pays est en voie de développement et revenir sur la misère et qu'on sort, mais de parler d'une cause qui touche tout le monde, qui touche tous les pays et qui est vraiment prise au sérieux ailleurs et dont les fonds sont disponibles pour pouvoir lutter contre cette maladie.
Nous venons de clôturer, ou nous sommes en train de clôturer le mois d'octobre qui est justement dédié au cancer, à la lutte contre le cancer du sein. On va entamer le mois de novembre qui est dédié à la lutte contre le cancer
de la prostate.
Quelles sont les activités que vous avez menées durant ce mois d'octobre? On a vu Octobre rose,
oui,
sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il suffit simplement de mettre un ruban rose sur la veste ou la robe qu'on porte,
non,
pour dire je suis engagée?
Non. Mm-hmm. Octobre rose, c'était vraiment une initiative avec la Fondation Kulisha de Andrea Moloto, qui est Miss RDC 2016. Au fait, Octobre rose, c'est d'abord un concept mondial. L'OMS avait nommé le mois d'octobre comme le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. On a voulu animer Octobre rose RDC pour mettre en lumière aussi les femmes et bien sûr aussi les hommes parce qu'ils sont aussi concernés par le cancer du sein. Mais on a voulu parler de la réalité congolaise par rapport au cancer du sein. Et donc, c'est pour ça que on a essayé vraiment, ça n'a pas été facile parce que c'est notre première édition, essayer d'impliquer un maximum de personnes. Tout ça, ce sont des stratégies de communication, faire porter le ruban, contribuer à $1. Si vous avez une personne qui en a souffert, elle a partagé son témoignage. Donc, les activités étaient essentiellement vraiment de sensibilisation, parler de la maladie, briser le tabou, emmener un maximum de personnes à connaître davantage sur ce qui est fait concernant le cancer du sein dans notre pays. Même pour recevoir certains financements, il faut qu'il y ait une certaine volonté de la population, qu'il y ait une certaine demande. Donc, manifester cette volonté-là, que nous aussi, nous sommes concernés, que le cancer du sein a touché plusieurs femmes, n'arrête pas de détruire des vies de famille, n'arrête pas de ruiner des personnes, parce que c'est une maladie qui coûte cher, surtout quand c'est diagnostiqué tard, et impliquer le côté social, parce que le mal, au fait, avec cette maladie, c'est que longtemps, ça a été gardé au niveau médical. C'était une affaire que des médecins. C'était que les médecins qui pouvaient parler du cancer. Non, même la population, même les activistes sociaux peuvent parler de cette maladie parce que on est tous concernés. À la maman qui habite loin, qui habite dans le fin fond des quartiers reculés, c'est pas le langage du médecin forcément qu'elle va comprendre. Donc, rabaisser le message au niveau compréhensible à tous. C'est ça, au fait, la mission d'Octobre rose RDC concernant le cancer du sein. Maintenant, pour le cancer de la prostate, comme c'est une cible bien précise, les hommes à partir de 50 ans, on fera la même chose dans les réseaux sociaux, mais aussi aller où on retrouve notre cible. Donc, dans les écoles, dans les entreprises publiques surtout, dans les hôpitaux aussi, parler au personnel médical, parce que c'est aussi à eux de donner le go. Quand un malade vient vers vous, lui parler de certains types de cancers à partir d'un certain âge. Donc, essayer de sensibiliser le personnel médical et les hommes dans différents lieux de travail où ils peuvent se retrouver.
Et surtout qu'aujourd'hui, on dit même que s'il est dépisté précocement,
exactement,
on peut en guérir.
Exactement.
Alors, on va terminer par cette date importante, mm-hmm, pour vous, même si c'est en 2019. Donc, mm-hmm, le 4 février 2019, qui est la journée mondiale dédiée contre la lutte du cancer, vous allez présenter un annuaire ou un répertoire que vous avez constitué justement,
exactement,
de toutes vos activités. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot avant la publication.
Oui, exactement. Alors, tout au long de cette année, on a travaillé sur un programme, au fait, à l'interne, où on répertorie tous les différents cas de cancer qu'on a eu à suivre. Mais aussi, on a pu travailler sur la conception d'un registre de cas de cancer que nous comptons présenter le 4 février au ministère de la Santé, aux différents partenaires qui accompagnent la santé en RDC, pour pouvoir, au fait, le valider d'abord et le rendre accessible, donc toutes les zones de santé de la République démocratique du Congo. En fait, cet outil nous permettra de tenir des statistiques fiables.
Parce que nous n'en avons pas, hein, ça, il faut le mentionner.
Oui, exactement. Et ça devient assez difficile pour nous de faire des plaidoyers comme il se doit, parce qu'on va se baser sur quels chiffres? Est-ce qu'il faut se baser sur les chiffres de la Fondation Bomoko ou du cancer en RDC en général? Dans les différents sites de l'OMS ou des statistiques, on ne se base que sur les statistiques des pays frontaliers. Et avec cet outil que nous comptons proposer, nous pourrons enfin envisager dans les 5-10 ans avoir nos propres chiffres, et cela va constituer réellement un atout même pour nous-mêmes, pour pouvoir lutter contre certains types de cancers qui auront une très grande prévalence.
Et surtout que les gens se sentent un peu plus concernés par cette question de la lutte contre le cancer. Merci beaucoup.
Merci
à vous, Mélissa Amissa Charoufa. Je rappelle que vous étiez notre invitée pour le magazine Étoile. Vous êtes la directrice de Mass Consulting, une agence spécialisée en communication événementielle, mais aussi et surtout la présidente de la Fondation Bomoko. Merci à Tina Salama qui a contribué à cette émission. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde. On se retrouve avec vous la semaine prochaine. Mon nom à moi, Inanna Bolojoy Aliomoto.